Vous écoutez France Culture. École d'acteurs. Olivier Barrault, journaliste et écrivain, s'entretient avec Alexandre Pavlov de la Comédie Française.
Dites donc, Alexandre Pavlov, c'est pas un peu russe, ça, comme nom?
C'est difficile de le cacher. Mes grands-parents étaient russes, ils sont plus là. Et ils sont venus après la Révolution. Ouais. C'est mon grand-père, enfin, c'est une anecdote qui me plaît, même si je ne l'ai pas connu. Parce qu'il est mort assez jeune. Il est venu à pied de Saint-Pétersbourg avec un camarade à lui. Et ils se sont portés mutuellement, tellement le voyage était long et difficile parce qu'ils ne mangeaient pas. Et ils sont arrivés jusqu'en France. Ils ne voulaient pas rester en France et puis il y est resté, quoi. Et ma grand-mère, elle est venue un peu plus tard.
Ils pensaient partir pour l'Amérique,
franchement. Oui. Ouais. Oui, parce qu'il y avait des cousins et je crois qu'il y avait un frère aussi à lui, voilà, qui était parti là-bas. Un autre frère qui était parti au Japon. Mmh.
Et finalement, ils sont restés français, et voilà pourquoi.
Voilà. Et ils ont eu mon père, et voilà. Et j'ai hérité du nom.
La langue?
Pas du tout.
Pas du tout.
Ouais, non, pas du tout. En fait, je peux le raconter, évidemment, comme beaucoup d'émigrés sont arrivés en France. Et puis, mon grand-père est mort jeune, donc peu de temps après la naissance de mon père. Et puis, ma grand-mère a refusé de parler russe, après, pour s'intégrer. Ouais. Voilà. Et du coup, mon père a parlait très très peu russe, et alors moi encore moins.
Et dans la famille de vos parents, on fréquentait les arts, le théâtre, la musique. Les Russes sont de grands amateurs et de grands praticiens.
Alors pas ceux-là.
Pas ceux-là. C'était des gens simples.
Oui, plutôt mon père par exemple, pour gagner sa vie quand il était jeune, parce qu'il était une famille plutôt pauvre, a travaillé dans la marine marchande. Voilà, donc il s'est engagé dans la marine marchande, etc. Et puis, non, c'était plutôt des gens modestes, pas des gens pauvres, mais des gens modestes.
Il vivait à Paris?
À Boulogne-Billancourt. Mmh. Vous êtes de Paris, quoi, où je suis né, oui.
Très bonne ville, je suis né là aussi.
Ah, ok.
Faut que je sais pas si c'est si bien que ça, d'ailleurs, peu importe. Ça n'a... Bon. Alexandre, question qu'il est impossible de ne pas vous poser, c'est l'idée du théâtre. Ça vous vient quand vous êtes un petit garçon, parce que chez vous, tout est précoce. Hein. J'ai vu que vous aviez commencé d'étudier l'art dramatique sérieusement à l'âge de 16 ans.
C'est venu à 16 ans.
Qu'est-ce qui se passe là?
Non, je ne voulais pas du tout être acteur, je voulais être journaliste. J'avais une douzaine d'années quand j'ai émis ce vœu-là. Et puis, j'ai une histoire familiale qui est un peu compliquée. Et donc, du coup, il fallait que je trouve un endroit, un moyen de pouvoir dire des choses. Et la seule solution qui s'est offerte à moi, par hasard d'ailleurs, parce qu'il y avait ma meilleure amie qui a fait du théâtre, enfin, qui faisait du théâtre à cette époque-là, elle m'a dit « viens », parce que je voyais bien, enfin, je pense qu'elle sentait qu'il y avait un endroit de moi où, qu'il fallait dire. Et j'ai fait du théâtre avec elle, du coup, j'ai pu dire des choses, et ça m'a plu de dire, voilà.
Donc, vous vous dites que, très normalement, vous allez exercer ce métier.
Ouais, c'est pas si simple que ça. D'abord, on le fait un peu en dilettante, en amateur. Voilà, parce que c'est plaisant, on y rencontre des gens, on a des copains, c'est super. Et puis, les années avancent. C'est vrai que j'ai commencé tôt. Alors, je faisais ça d'une manière extrêmement ponctuelle. Je faisais ça un samedi par après-midi, enfin, un après-midi de samedi. Bon, voilà, c'était extrêmement... c'était à dose homéopathique. Et puis, après, évidemment, quand on a le bac, etc., quand on a fini ce cycle-là, on se pose la question des études, qu'est-ce qu'on va faire plus tard. J'ai commencé des études, j'ai fait une licence, et puis je voyais bien que ça ne me plaisait pas tellement. Je crois que j'avais arrêté l'idée de vouloir être journaliste. Et en fait, ce qui a été déterminant pour moi, c'est non pas ces années, c'était dans un conservatoire d'arrondissement, c'est pas ces années-là, c'est en fait j'ai fait un stage d'une formation acteur studio. Et là, ça a été pour moi la révélation.
Qui enseignait?
Eh ben, je me souviens plus.
Bon,
c'est pas sympa. Surtout pour une révélation. Je crois qu'il s'appelait Paul. Je sais qu'il y avait, durant ce stage-là, mais j'ai rencontré comme ça Amira Kazar.
Oui.
On a fait le stage ensemble. Et ça a duré, c'est un stage qui a duré combien de temps ? 2 mois. Je devais avoir 19 ans, j'étais en fac. Je continuais, je me disais, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais être acteur ? Est-ce que je vais continuer ? J'étais en fac de communication, voilà. Et puis ce stage-là, ça m'a ouvert des portes incroyables, quoi. J'ai peut-être touché du doigt ce que ça pouvait être qu'être acteur à ce moment-là, quoi. Avant, c'était un peu, c'était un peu une partie de rigolade. Enfin, je comprenais pas, quoi.
Je voudrais que vous nous parliez de quelqu'un qui a été lui aussi très important, et qu'on oublie peut-être un peu trop, qui est Pierre de Bauge.
Ouais. Ça a même été plus qu'important, ça a été fondamental.
Oui.
D'ailleurs, comme ce stage à l'Acteur Studio, en fait, je suis rentré à l'école Pierre de Bauche juste après ce stage-là. Mmh. Enfin, je peux parler de Pierre, enfin, oui. C'est quelqu'un qui, à mon avis, est méconnu aujourd'hui, qui a été un grand, grand metteur en scène dans les années 70, un très grand pédagogue aussi, puisqu'il a été professeur au Conservatoire National. Et puis, il a eu des moments de déroute. Et il a refait une école dans les années 90, rue Saint-Bernard, dans le 11e. Et il voulait que ce soit une école qui soit l'égale du Conservatoire National. C'est-à-dire qu'il y ait plusieurs intervenants, où il y ait donc plusieurs cours d'interprétation, où il y ait des cours de danse, des cours d'écriture, des cours de dramaturgie. Et tout ça dans une structure qui était privée, qui n'était pas du tout... je crois qu'ils n'étaient pas beaucoup payés à l'époque, mais il y avait une espèce de foi immense dans la passation. Et moi, j'ai participé, j'étais la première session, la première promotion de cette école-là, de ce retour-là de Pierre. Et ça a été 2 ans incroyables où j'ai tout expérimenté, je crois. En fait. Il m'a ouvert des portes sur l'imaginaire, mais incroyables, quoi.
C'était avant ou après la période où il a dirigé et créé d'ailleurs le Théâtre des Amandiers à Nantes?
Ah, c'était bien après, parce que le Théâtre des Amandiers, je crois
que c'est...
Oui, 69, 70, quelque chose comme ça. Oui. C'était lui, évidemment, qui a été à l'initiative de ce magnifique projet. Non, c'était bien après, parce qu'après, il a même été directeur du Grand 8, du Théâtre de Rennes, enfin de la Bretagne. Il a eu des problèmes avec l'État, enfin bon, voilà quoi. Mais c'était bien après, non, c'était genre 20 ans après, plus de 20 ans, ouais.
Je constatais en regardant en préparant cet entretien, vous avez très tôt été sollicité par des metteurs en scène qui, à ce moment-là, n'avaient pas encore la notoriété qui est la leur aujourd'hui. Mais je vois par exemple que vous travaillez sous la direction de Debauche en 92, donc, dans une adaptation de Flaubert. Et à la suite de ça, vous allez avoir comme metteur en scène Olivier Py, Julie Brochen, Catherine Hahn et d'autres encore. C'est-à-dire que c'est... C'est quand même.
J'ai eu.
Vous mesuriez la chance que vous aviez ou
non,
pas du tout?
Non, pas du tout. Non, parce que j'étais à ce moment-là, donc j'ai travaillé, donc j'ai fait ce spectacle avec Pierre, le Château des Cœurs, et puis je suis rentré au Conservatoire tout de suite après. Et puis c'est vrai que au Conservatoire, j'ai travaillé dès la première année, et je n'ai pas cessé durant mes années de Conservatoire de jouer. De faire vraiment mon métier, d'être à la fois élève et d'être à la fois acteur, quoi. Et ça me paraissait presque normal parce que je l'avais fait avec Pierre. Et donc pour moi c'était légitime, même si c'est pas forcément facile de se trouver légitime dans ce métier, mais c'était légitime pour moi et presque inconscient en fait de faire ça, quoi.
Attendez, vous dites une chose intéressante là. C'est pas facile de se trouver légitime dans ce métier.
Ah ouais, parce que c'est...
Vous qui avez passé la moitié de votre vie, ou presque ici, car on a fait le compte tout à l'heure dans la coulisse.
Ouais.
C'est très impressionnant. Vous avez été élève comédien, vous avez 42 ans et vous êtes dans la maison depuis 20 ans. C'est dire que je parlais de précocité, j'avais pas complètement...
Le temps passe vite. Souvent, enfin, moi j'ai eu cette sensation-là, les choses s'enchaînent et puis on n'a pas de perspective d'avenir. On voit les choses, enfin en tout cas pour moi, je vois les choses présentes, je les prends comme elles doivent se prendre et je n'ai jamais eu de vraie réflexion, en tout cas de plan de carrière, etc. Donc voilà, je prenais les choses comme elles venaient. Je pouvais être des fois l'initiateur, mais très peu. Mais j'ai eu la chance, en fait, que les choses viennent à moi.
Je reviens au doute.
Mais oui, j'en reviens.
Il vous habite toujours.
Oui. D'abord, je pense que je ne suis pas le seul. Hein. On est tous là-dedans. Mais c'est vrai qu'en fait, d'être... je repense toujours en fait à la difficulté, la joie aussi, mais la difficulté du métier d'acteur, c'est de s'exposer devant tous et d'être confronté à la critique, à l'amour du public, mais aussi à la critique du public. Et forcément, ça met dans des endroits de doute. Est-ce que je fais bien? Qui suis-je? Pourquoi moi à ce moment-là? Pourquoi si? Enfin, voilà, beaucoup de questions qui se posent. Je crois que c'est logique. Enfin, je crois que c'est inhérent à ce métier. Je ne suis pas le seul. Enfin, j'espère.
Le Conservatoire national d'art dramatique, vous en gardez un souvenir précis?
Oui, heureux.
Heureux.
Très joyeux. Très joyeux, très... Oui, en fait, j'ai un grand souvenir d'abord de prof. J'ai eu Madeleine Marion.
Oui.
C'est drôle, en fait, cette espèce de filiation. Enfin, quand j'ai connu Pierre, hein, évidemment, il avait beaucoup connu Antoine Vitesse. Et ils étaient très proches, très amis. J'ai eu aussi des intervenants chez Pierre Debauche qui étaient ce qu'on peut appeler, entre guillemets, des acteurs vitésiens. Et puis, je me retrouve avec Madeleine Marion, qui, elle aussi, avait beaucoup travaillé avec Vitesse. Donc, une espèce comme ça d'histoire qui s'écrit, j'allais dire sans moi, parce que je n'ai pas connu Antoine Vitesse. Donc, du coup... moi, j'avais juste que le filigrane de ça, quoi. Enfin, je savais pas. Et en même temps, j'ai eu l'impression d'avoir reçu cet enseignement-là. Donc, du coup, je me souviens quand je suis rentré au conservatoire, on n'avait pas le choix évidemment des professeurs, mais je priais pour que ça soit Madeleine Marion. Et j'ai eu Madeleine Marion. Et j'étais tellement heureux de ça que j'ai passé une année joyeuse. C'est-à-dire qu'en plus, mais c'était ce qui est très beau dans l'école. C'est qu'évidemment, on y fait ses armes, mais on rencontre aussi des gens de sa génération. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a l'impression de participer à un mouvement. Un mouvement créatif. Alors évidemment, c'est un peu d'ailleurs, on parlait de ça, de Simoul et Senghoulis. Mmh. Mais on est dans le Simoul et en même temps, évidemment, on est extrêmement Senghoulis puisqu'on est, on est débutant, on est jeune acteur. Donc on veut absolument montrer qui on est. Qu'on est le meilleur acteur du monde. Mais en même temps, il y a cette idée aussi du théâtre qui est magnifique, qui est avec. Et ça, je trouve que dans l'école, on était dans notre classe, on était 12, il y avait d'ailleurs Eric Ruff. Hein.
Mm-hmm. Et c'est une génération qui est très présente dans la troupe actuelle de la Comédie française, la vôtre. Mais si, c'est normal.
Il y a eu Jeanne. Enfin, Eric et Jeanne sont rentrés en même temps très tôt. Ils ont quitté la première année. Ils étaient en première année de conservatoire qui sont rentrés à la Comédie française. Mm-hmm. Après, il y a eu moi, mais c'est vrai qu'il y a des générations comme, effectivement, Éric Genovese, mais il était un peu plus âgé. Après, il y a eu Guillaume, il y a eu Laurent Stocker aussi. Effectivement, c'est les 3, 4, 5 années qui ont suivi. Il y a eu pas mal de gens qui sont rentrés. Ouais.
Ouais. Quand vous êtes au conservatoire, aux côtés donc de Madeleine Marion, mais aussi Jacques Lassalle,
ouais.
Mais aussi Daniel Mesguich, ouais. C'est-à-dire quand même des sensibilités extraordinairement différentes, voire opposées, on peut dire.
Ouais.
Vous pensez à la Comédie française?
Pas du tout.
Pas du tout.
Pas du tout, non. J'avais pas du tout envie d'y aller.
Vous avez...
J'avais pas envie d'y aller.
C'est bête.
Non,
hein.
C'est vrai.
Ah, c'est pas de chance.
Mais en fait, c'est lié, d'ailleurs, c'est lié à ce que je viens de dire. Pour moi, c'était extrêmement important de me retrouver avec des gens de ma génération et de faire des choses avec des gens de ma génération. Alors évidemment, j'avais eu effectivement Madeleine, j'avais eu après Daniel Mesguich, j'avais aussi Lassalle, et c'est vrai que c'était trois éclairages extrêmement différents sur le théâtre, mais c'est ça aussi qui était plaisant. Et ce qui était en fait, qui reliait le tout, c'est que c'était cette génération d'élèves, d'acteurs, hein, qui se retrouvaient avec des tripoteurs d'acteurs et qui nous moulaient comme ils le souhaitaient. Mais c'est ce qui donnait en fait la force, c'est qu'on était ensemble. Et qu'on avançait ensemble.
Je voudrais vous poser une question liée au physique. Vous m'avez dit tout à l'heure que le corps est très important, évidemment. Est-ce que vous pensez que votre physique, qui n'est pas entièrement repoussant. Est-ce que votre physique de jeune premier peut être romantique? Ça tient à l'allure, à la démarche, à la couleur des yeux, des choses comme ça, qu'on voit ou qu'on voit pas, mais qui sont très très frappantes chez vous. Est-ce que tout ça a déterminé le type de profession que vous exercez, le type de rôle, ou pas tant que ça?
Non, en fait, je sais, par exemple, d'abord quand j'étais jeune, j'étais un peu plus fluet, j'étais moins romantique.
Pourquoi la maigreur, ça peut être très romantique? Moi, j'aimerais bien.
J'avais une maigreur maladive.
Bon, soit.
C'est romantique aussi. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, je n'avais pas un attrait profond pour l'étude des jeunes premiers. Moi, ce que j'aimais, j'ai découvert ça avec Pierre aussi, peut-être que c'est aussi de la formation Acteur Studio, mais ce que j'aimais, c'était Shakespeare. J'ai beaucoup travaillé Shakespeare, et ce qui me plaisait, c'était les aigus, c'était dans les personnages, les aspérités, les difficultés, la folie. J'ai beaucoup travaillé ça, en fait. Je crois que c'était quelque chose qui m'a...
Mais quel rôle, par exemple? Parce qu'il y a plein de jeunes premiers chez Shakespeare aussi, notamment dans les comédies.
Mais par exemple, je peux citer au conservatoire, par exemple, j'ai travaillé Richard III, par exemple. J'ai travaillé aussi dans Mesure pour Mesure, je ne me souviens plus du Angelo. Angelo, je crois que c'est
ça. Je ne sais plus.
Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Je ne suis pas sûr. Et puis, d'un autre côté, c'est vrai, vous avez raison, j'ai joué en deuxième année Roméo. Oui. Mais ça, dans un spectacle. Mais j'ai travaillé aussi, par exemple, dans Le Roi Lear, Le Fou. Ouais. Voilà, en fait, où j'ai travaillé aussi, Richard II, le rôle de Richard II. Et puis, d'un autre côté aussi, j'ai joué Malcolm dans Macbeth. Voilà, j'ai été souvent confronté à cette écriture-là quand j'étais jeune. Mais moi, ce que j'aimais, c'était la vision extrêmement, cosmique de ces rôles-là, et à la fois tragique et comique, tragique-comique. Et c'est ça qui me plaisait, en fait, comme acteur, enfin, de me développer là-dedans. C'est pareil aussi, par exemple, j'ai joué un spectacle, j'ai joué, par exemple, Premier amour de Beckett, quand j'avais 21 ans. C'était pas du tout immédiat comme distribution quand on me voyait. Mais c'est ce qui me plaisait. Et je crois qu'en fait, du coup, c'est ce qui attirait aussi les gens, quoi.
Qu'est-ce qui vous a rapproché de la comédie française au cours de ces années?
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance qu'il y ait eu un problème de distribution à la comédie française. Yanis Kokos montait la Thébaïde de Racine. Et puis, il manquait un acteur parce qu'il y a eu dans la distribution un problème. Et il s'est tourné vers le conservatoire, j'étais à l'époque élève, pour faire une audition pour trouver l'acteur qui jouerait Aymon. Et puis j'ai passé l'audition et je l'ai eu. Et donc, par hasard, j'ai joué à la Comédie Française, quoi. Et donc j'ai joué le rôle d'Aymon. Et puis en même temps, c'était des contrats... d'artistes auxiliaires, c'est-à-dire que c'était des contrats qui duraient 11 mois, c'était des durées déterminées. J'étais élève au conservatoire, je me souviens, j'étais en troisième année, j'ai été engagé en janvier, j'avais les journées de juin en juin. La production de la Thébaïde devait s'arrêter, je crois, fin mai. Et puis en même temps, donc mon contrat devait courir jusqu'en novembre, décembre, enfin on compte 11 mois de novembre. Du coup, comme j'étais payé par la Comédie Française et que j'étais là, il y a eu aussi un souci de distribution. C'est Éric Doye qui est parti. Enfin, il était malade à ce moment-là, donc il n'a pas pu continuer le rôle de Mouhutu dans Occupe-toi d'Amélie. Et j'ai eu la chance de le remplacer. Et donc, du coup, c'était faut dire tragicomique, parce qu'en même temps, je jouais Aymon dans la Thébaïde et puis je jouais Mouhutu dans Occupe-toi d'Amélie. Et ça, c'était super.
Mais c'est une préfiguration de ce qu'allait être votre vie à la Comédie Française.
Oui, peut-être, ouais, c'est vrai.
Parce que l'alternance et puis la différence absolue du registre.
Et je crois que c'est ce qui me plaît, en fait.
Oui, bien sûr. Vous signez des contrats de 11 mois, vous savez qu'il y a des gens qui descendent dans la rue pour moins que ça. Hein. 11 mois, c'est quand même formidable.
Bon. Et surtout, en plus, j'ai demandé à Jean-Pierre, c'était Jean-Pierre Miquel qui était administrateur, je lui ai dit, mais on me proposait de travailler ailleurs, mais je ne peux pas rester, il faut couper ce qu'on... Il faut arrêter le contrat. Je ne vais pas rester au français pendant 11 mois. C'est pas possible. Et donc, il s'est arrangé pour que je parte avant, pour que je parte juste après mes journées du juin, quoi.
Oui, ça vous a pas empêché de revenir?
Ouais. Ça a été un hasard, en fait. Il m'a appelé, je crois qu'ils m'ont appelé un an et demi ou deux ans après. J'avais travaillé, et je me souviens, je faisais un stage avec Claude Régis. Ouais. Et puis, il apprend qu'on me propose de rentrer à la Comédie Française comme pensionnaire. Donc Jean-Pierre avait décidé de m'engager. Il se souvenait de moi. Et Claude me dit, mais tu vas certainement pas rentrer là. Tu es foutu comme acteur. Si tu rentres à la Comédie Française, t'es foutu. Alors moi, j'ai dit, ah bon Et pourtant, j'avais envie d'y aller, quoi. Et j'y suis entré. Et pile à ce moment-là, je signe mon contrat. Je sais que je dois jouer... c'était le fauteuil à bascule que montait Yves Gasque. Je sais que je dois jouer ça. Et 10 jours après, je crois, Olivier Py m'appelle en me disant « Mais je voudrais que tu joues dans Le Visage d'Orphée, que tu viennes avec nous à Avignon, etc. » Et j'ai dit « Ah, mais oui, mais il faut absolument que je le fasse. Mais je viens de rentrer à la Comédie Française, je ne sais pas si ça va être possible, etc. » Il me dit « Débrouille-toi, va voir Jean-Pierre Miquel et dis-lui tu veux le faire. » Je suis allé voir Jean-Pierre Miquel, qui m'a regardé, qui m'a dit « Ça ne va pas du tout, tu ne vas pas le faire, tu as signé, c'est foutu pour toi. » Et là, donc du coup, voilà, après les choses ont continué comme ça. Quoi. Et je suis rentré un peu par hasard, parce que voilà, c'était...
Alors, je voudrais que vous reveniez sur le statut qui a été le vôtre, plaisanterie à part, d'élève comédien, ça ne s'appelait pas...
Non, c'est artiste auxiliaire.
Voilà,
artiste
auxiliaire. C'est une chose qui n'a rien à voir avec ce que sont aujourd'hui les élèves comédiens...
Pas du tout.
...qui sont membres de la troupe, en réalité. En tout cas, ils sont présentés comme tels dans les programmes.
Oui, alors en fait, artiste auxiliaire, c'était le même statut, on va dire, en tout cas, le même salaire qu'un pensionnaire, sauf qu'il n'y avait pas un contrat à durée indéterminée, mais c'était un contrat de 11 mois. Ouais. Ça permettait, en fait, en cas de problème de distribution comme le mien, d'ailleurs quand j'ai joué au Aymon, d'engager un acteur de l'extérieur, enfin, hors troupe, et de le faire jouer à la Comédie Française. Ça a perduré, je ne sais pas en fait maintenant encore s'il y en a encore des artistes auxiliaires qui viennent jouer. Je sais qu'au Vieux Colombier, souvent, il y a eu, des artistes auxiliaires, mais plus tellement, et ça depuis quelques années, depuis 4-5 ans, plus tellement à Richelieu.
Donc vous voilà de retour, à la demande de Jean-Pierre Miquel.
Oui.
Il vous fait revenir pour un rôle en particulier, ou simplement pour que vous rejoigniez la troupe comme pensionnaire?
Je crois qu'il voulait que je rejoigne la troupe comme pensionnaire, oui.
Et qu'est-ce qui vous advient à ce moment-là? Comment ça se passe? Pardon, c'est une question que j'ai souvent posée, mais moi qui m'a toujours intrigué. Le premier jour où vous êtes ici, non plus comme élève, comme apprenti, à contrat à durée déterminée, mais vous êtes entré comme pensionnaire. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour-là?
Bah, non.
Non.
Non, parce qu'en fait... je me souviens en fait de l'accueil, mais le plus important pour moi en fait, ce qui m'a le plus ébloui, fait peur, traumatisé et en même temps réjoui, c'était la première fois que j'ai joué sur le plateau de Richelieu à la Comédie Française. Et c'était donc sur la Thébaïde, montée par Yanis Kokos. Donc c'était antérieur. Quand je suis rentré comme pensionnaire, je connaissais déjà beaucoup de gens, puisque j'y étais resté déjà 6-8 mois. Mais je me souviens parfaitement du jour où j'ai signé le contrat de pensionnaire. Il y avait Catherine Samy, qui était le doyen. Il y avait Céline, sa fille, qui est une de mes meilleures amies. Et on a fait le tour du français, comme ça, en rigolant, etc. Elle m'a dit, bon, voilà, je me souviens de ça.
Mais vous avez des débuts étonnants, puisque vous travaillez avec Mesguich, que vous retrouvez à ce moment-là, dans La Tempête. Avec Jean-Louis Benoît, avec Alain Françon, avec Yves Gasque. Tout ça la même saison.
C'est pareil.
C'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. C'est vrai, extrêmement éclaté comme univers. Mais c'est ça, en fait, qui est extrêmement beau, en fait, à la Comédie Française. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime. C'est qu'il y ait une pluralité de propositions, qu'il y ait une troupe aussi extrêmement, j'allais dire, hétérogène. Qu'il y ait des acteurs qui viennent d'un univers théâtral complètement différent. C'est cette espèce de collage qui fait que, moi je trouve, qu'il fait la richesse de la troupe. Et la richesse de la proposition de la Comédie Française. C'est un lieu unique où, avec 60 acteurs, où des metteurs en scène d'horizons totalement différents, de pays différents, viennent. Et on a cette chance. Alors, c'est vrai que c'est une chance qui est inouïe de pouvoir travailler avec. Avec des gens qui ont des univers, mais totalement différents. et qui peuvent nous emmener dans des aventures qui sont peut-être des fois à l'opposé. Mais c'est ce qui fait, en fait, c'est ce qui fait les couches qui font qu'on est, qu'on peut devenir l'acteur qu'on est. Ou, voilà.
Quelle est la part d'initiative des comédiens à l'intérieur de la troupe ? Je veux dire par là, je ne parle pas du point de vue de la mise en scène, mais du point de vue de l'interprétation, de votre premier métier, celui-là, celui d'acteur, de comédien. Est-ce qu'il est loisible qu'un comédien propose quelque chose à un metteur en scène, fasse part d'une idée, ou est-ce qu'au contraire vous êtes entièrement finalement sous la coupe du metteur en scène qui va vous requérir ?
Non, après, quand on est très proche d'un metteur en scène qu'on connaît, et qu'on sait qu'il va venir et qu'on sait qu'il va monter une pièce, on peut très bien discuter avec lui. Il y a un dialogue qui s'est qui
ça s'est passé pour vous, ça, par exemple?
Oui, par exemple, Julie Brochen a monté Monsieur Perrichon, le voyage de Monsieur Perrichon. Oui.
Et vous jouiez Daniel Savary.
Voilà.
Le méchant, entre guillemets, ouais, des deux soupirants, mais qui est défait à la fin.
Oui. Et elle m'a dit, voilà, je vais monter un habit, je veux absolument que tu le fasses. Oui. Lis le texte et dis-moi ce que tu en penses. Donc j'ai lu le texte, je lui ai dit ce que j'en pensais, que j'aimais beaucoup ce rôle-là. Elle m'a dit, bah, c'est ce rôle-là auquel je pensais pour toi, etc. Bon, voilà, mais ça s'est fait parce que je la connaissais. Après, pour moi, j'ai eu la chance, en fait, que les choses se fassent comme ça, presque sans que je le demande, en fait, en tout cas, voilà. C'est que les metteurs en scène, veuillent que ce soit moi qui joue tel rôle. Ouais. Après, tout est possible, en fait. On est très lié, de toute façon, à la programmation d'un administrateur. Ouais. Voilà, c'est lui qui va décider, évidemment, de qui va faire quoi, enfin, quel metteur en scène va faire quel texte. Donc, évidemment, on est très lié à ça, on est très dépendant de ça. Il se trouve que quand on peut, par exemple, parler aussi à l'administrateur ou l'administratrice de ses envies. On peut dire, voilà, j'aimerais bien jouer tel rôle, etc. Même si moi, je l'ai jamais fait parce que j'ai pas envie de jouer un rôle particulier. Je me laisse ouvert, en fait, aux aventures. Mais on peut le faire. On peut dire, voilà, moi, j'aimerais bien jouer... je parlais de Richard III, j'aimerais bien jouer de Richard III. Et puis, peut-être que ça peut être la naissance d'un projet. Voilà. Après, l'administrateur peut y songer, etc. Mais souvent, en fait, on est distribué. On est, donc on n'a pas une grande part de liberté. Mais le dialogue est ouvert.
On va revenir au rôle marquant que vous avez interprété ici. Dans un deuxième temps, j'aimerais vous poser des questions prosaïques, quotidiennes, sur l'exercice de ce métier à l'intérieur de ce cadre tellement singulier, effectivement. On y revient, mais c'est le mot qui convient. Racontez-moi la différence entre un jour où vous jouez à 20h30... et un jour, vous ne jouez pas. Est-ce que vous venez quand même dans la maison ? Dans votre loge ?
J'y viens, pour moi maintenant, mais j'y viens souvent pour répéter, donc j'y joue pas. Donc j'y viens, mais non, c'est sûr, il y a une grosse différence. Il y a un jour où je meurs et un jour où je vis. C'est-à-dire qu'il y a un jour où j'ai l'impression d'être totalement collé à mon angoisse.
C'est les jours de doute, ça.
C'est les jours de doute, c'est les jours de jeu, c'est les jours de la représentation, avec même une certaine joie, quand même. Ouais. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il y a de l'angoisse joyeuse. Mais, tout est tendu vers la représentation. Ouais. Mais, voilà. Et puis, les jours où on ne joue pas, il y a... la relaxation revient, quoi. Enfin, le calme revient, quoi. Ouais.
Mais vous insistiez tout à l'heure... sur l'aspect physique de ce métier. J'aimerais bien que vous nous expliquiez comment ça se matérialise chez vous. Vous êtes sportif, par exemple ?
Oui, mais surtout, en fait, c'est pareil, c'est venu avec, à l'école Pierre de Bauche, il y avait des cours de danse, oui. Et notamment des cours de danse classique. Et j'ai commencé le classique à ce moment-là. Et il se trouve que, je vais la nommer, Hélène Sadowska avait un cours à Pleyel et elle voulait absolument que je sois danseur. Elle m'a dit, il faut que tu arrêtes d'être acteur, il faut que tu sois danseur.
Bon,
ok. Alors, ça me plaisait bien, en fait, le mouvement. Donc, j'ai continué les cours avec elle à Pleyel, etc. Et puis, j'ai bien vu que je ne pouvais pas être danseur. Donc, j'ai arrêté le classique, mais j'ai toujours continué la pratique de la danse. Par exemple, j'ai dansé dans une chorégraphie, etc. J'étais jeune, j'ai fait de la danse. Et puis après, je suis plus porté vers le moderne, enfin, la danse contemporaine. Et puis après, j'étais trop sollicité aux Français pour pouvoir vraiment continuer ça. Et j'ai continué à faire des barres au sol, des choses comme ça. Enfin voilà. Et puis après, j'ai fait du sport aussi. Enfin, ça a toujours été pour moi extrêmement important. Le mouvement a toujours été important pour moi.
Vous avez employé le mot peur tout à l'heure.
Oui.
On peut appeler ça trac ou angoisse ou inquiétude ou je sais pas quoi. On a vraiment l'impression que ça vous habite totalement.
Merci.
Non, c'est pas un compliment ni un reproche, c'est une matérialité, c'est une évidence.
C'est vrai, c'est vrai.
Ouais. C'est Certains vrai. De vos camarades dissimulent ça assez moi. Avec beaucoup ouais, de science. Vous non.
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 Non, parce qu'en fait, je pense que d'abord c'est inhérent à ce métier-là, et puis je pense que j'ai pas envie de masquer ce que je suis, ce que j'éprouve, parce que sinon, je pense que je passe à côté de moi, de mon métier d'acteur. Mm-hmm. Je dois être au plus proche de moi, de mes sensations, de ma vérité, de mes émotions. J'essaie de le faire, c'est pas toujours facile, c'est même des fois extrêmement, j'allais dire angoissant. Oui, parce que ça amène à des endroits de doute, d'émotions intense, mais voilà, je crois que ma bannière, c'est de pas dissimuler, d'essayer d'être au plus proche, d'être dans une vérité. Peut-être parce que c'est l'acteur studio, je sais pas, mais ça me constitue.
Mais cette caractéristique psychologique, c'est quelque chose que vous extériorisez pendant la répétition. Vous pouvez vous laisser aller à de la colère, à du désespoir, vous élevez la voix, vous vous engueulez avec les gens. Ça arrive, ça?
Ouais, enfin, c'est pas non plus très fréquent. Non, je suis plutôt sympa, on répète. Non, ça s'exprime pas du tout comme ça. Non, ça s'exprime par une espèce de... En répétition, comme en jeu, par une recherche toujours d'être au plus proche de... d'un état émotionnel au plus vif, ouais. Le plus vif. Ça veut dire que ça passe pas forcément effectivement par avec l'autre, c'est pas forcément dans mon rapport avec l'autre, hein, mais c'est dans ma pratique de mon art.
Mais j'imagine aussi qu'il y a des moments où vous devez être transporté, ne serait-ce que parce que la qualité de vos partenaires quelquefois doit vous sidérer, vous devez être toujours surpris de ça.
Mais par exemple, moi, le moment que je préfère, c'est les répétitions.
Oui.
Ça, c'est merveilleux parce qu'effectivement, on est ensemble et ensemble, on construit le spectacle, on travaille. Mais il y a il y a de l'angoisse, j'en parlais, mais il y a aussi une joie, mais intense, enfin, une jubilation, une ferveur. Enfin, oui, c'est toujours rempli et c'est ça que je trouve qui est un vrai cadeau dans ce métier, c'est toujours rempli d'émotions. Qu'elles soient les plus différentes des unes des autres, mais c'est ça en fait qui est... On travaille avec de l'émotion. Et ça, forcément, enfin, on le sait tous, l'émotion, c'est notre gamme à tous, humain. C'est, on travaille tous avec ça. On travaille tous avec la passion, même si on la refuse. On travaille avec la passion.
Des choses comme la respiration... Le souffle, le silence, c'est des choses à quoi vous pensez ou vous pratiquez de façon spontanée?
J'ai vraiment... Non, ça m'a pas... En fait, j'ai beaucoup travaillé, par exemple... c'est drôle que je dise ça. Enfin, des rôles autour de la mort. Et forcément... Ça met dans des endroits de souffle, de respiration qui sont totalement différentes d'autres textes qui n'impliquent pas ça. Mais en fait, je crois que le souffle, il naît spontanément de l'écriture de l'auteur. Au fond, le souffle, il est lié à l'écriture. Comment se développe l'écriture ? Obligatoirement, le souffle va naître de ça, la parole, l'émission va naître évidemment du texte. Et même, au fond, presque le corps, la façon de jouer, la voix aussi, tout vient de l'écriture. Enfin, moi, je sais que c'est pour moi mon référent. C'est ma référence. C'est à quoi d'abord je m'attelle en premier quand je suis acteur. C'est l'écriture. Comment c'est construit? Comment moi, effectivement, comment je peux développer le texte?
Autrement dit, c'est une lecture à haute voix, au moins autant qu'une lecture avec les yeux seulement.
C'est extrêmement important. Je me dis le texte. Oui. Alors évidemment, je l'apprends, donc forcément. L'apprentissage, on se répète le texte, forcément. Moi, je le fais pour se le mettre en mémoire. Mais obligatoirement, chez soi et en répétition, on éprouve comment le corps bouge, comment le texte est émis, comment le texte sort, comment la voix se pose, comment l'autre existe en face de soi. Voilà, on éprouve les choses, mais ça part du premier élément qui est le texte.
Est-ce qu'il peut arriver qu'un texte qui vous est soumis, que vous allez interpréter, éveille chez vous des résonances autobiographiques, si je puis dire? Autrement dit, que vous ressembliez à votre personnage? Est-ce que ça arrive, ça?
Je fais en sorte que ça ressemble. Oui, je trouve en moi les raisons de dire ces choses-là. Forcément, je crois beaucoup, en fait, à l'universalité de l'homme. C'est-à-dire qu'on a tous en nous, je pense, toutes les possibilités. Donc, quand un auteur écrit une couleur, enfin, quand il donne une couleur, un son, parce que moi, c'est pareil aussi, le son aussi est assez important. J'écoute beaucoup de musique, par exemple. Mais quand quand on développe une partie de l'humain, ça résonne forcément chez nous. Il y a toujours un endroit où ça résonne, que ce soit les pires atrocités, les pires horreurs, les monstres. J'en ai beaucoup travaillé.
Oui, il y a ça aussi chez Shakespeare, le fait.
Mais je crois que c'est important, parce que, d'ailleurs, c'est aussi, c'est pourquoi aussi ça a beaucoup été développé dans le théâtre. C'est un endroit où chacun peut se reconnaître, où la société tout d'un coup a mis des barrières pour ne pas que ça s'exprime, pour pas que la société explose. Mais on a tous en nous cette espèce d'animalité, cette monstruosité. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que les gens viennent au théâtre. C'est pour reconnaître en eux toutes ces palettes qu'on n'ose pas exprimer et qu'on peut retrouver et qu'on peut partager ensemble. Et ça, c'est je dévie un peu, mais c'est extrêmement important.
Mais vous ne déviez en aucune manière. C'est le contraire. Vous dites quelque chose d'absolument essentiel qui peut rappeler d'ailleurs certaines des pratiques de Villard. C'est-à-dire que le théâtre a un rôle civique. C'est pas simplement la cité qui s'expose et qui fait valoir ses contradictions, ses difficultés ou ses antinomies. C'est aussi les êtres qui l'incarnent, la cité. C'est exactement ça, au contraire. Vous êtes au cœur du sujet, au cœur de ce qu'est le théâtre.
Je repense beaucoup, évidemment, au théâtre grec. Évidemment, il y a la catharsis, c'est-à-dire, effectivement, c'est que les gens viennent pour éprouver les passions et donc, en fait, pour les digérer, au fond, eux-mêmes.
Les accepter,
oui. Et puis, il y a aussi, dans le théâtre, où la société met des barrières. C'est-à-dire, regardez, si tout d'un coup, vous vous comportez de telle manière, vous allez finir de telle manière. Si vous êtes monstrueux, vous allez finir sur l'échafaud. Vous allez mourir, vous allez être banni, n'importe quoi. Mais voilà, donc il y a quelque chose effectivement de civique et aussi d'intime.
Je vous posais la question de l'identité provoquée par un texte que vous allez avoir à interpréter. Je me souviens de vous avec beaucoup de précision dans Le jeu de l'amour et du hasard. Ouais. Que j'avais vu, moi, au 104, puisque ça a été joué sous la direction de Galine Psoeff là-bas, spectacle qui m'a énormément impressionné, et je vous ai trouvé absolument adéquat au rôle de Dorante que vous interprétiez. C'est-à-dire que j'avais l'impression de quelqu'un qui était totalement dans son élément, extrêmement respectueux des rythmes, évidemment de la prose admirable, etc., mais qu'il y avait quelque chose de chorégraphié dans ce travail avec vos camarades, et vous étiez exactement le personnage. Alors que le rôle du comédien, c'est aussi quelquefois de sortir de lui-même, bien entendu. Mais que là, vous y étiez totalement.
J'ai travaillé pour...
Oui. Bien sûr.
Oui, ce que je disais, c'est qu'en fait, on trouve toujours dans tous les rôles un endroit où on peut s'exprimer, où on peut être soi. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut aller vers le texte, il faut aller vers l'écriture, vers ce qui est proposé, mais il faut y aller avec soi.
Concrètement, ça veut dire y aller, ça veut dire l'intérioriser, l'apprendre par cœur, en parler avec les camarades, le metteur en scène,
oui, c'est quoi? Oui, bien sûr, c'est bon, parler évidemment avec les autres, etc., mais c'est aussi comprendre quels sont les enjeux. Ouais. Qu'est-ce que, et ça, c'est intime. C'est quels sont les enjeux que l'auteur a écrit, qu'est-ce qu'il nous donne à dire, qu'est-ce qu'il nous montre, qu'est-ce qu'il nous raconte, profondément. Mmh. Et moi, en fait, il y a toujours une part de moi qui dit toujours, mais qu'est-ce que je veux raconter sur l'humanité? Qu'est-ce que je veux dire, moi, en tant qu'interprète? Qu'est-ce qui va pouvoir, c'est présomptueux, mais en même temps, je ne peux pas faire autrement, qu'est-ce qui va pouvoir nous aider tous? Qu'est-ce qui va faire que le public se reconnaisse? Qu'est-ce qui va faire qu'on va tous partager cette part d'humanité et on va tous être émus? Alors l'émotion, elle a différentes couleurs, elle a des milliers de couleurs, il y a des milliers d'émotions. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va être ému? Qu'est-ce que l'auteur nous dit? Qu'est-ce qu'il veut nous montrer de l'humanité? Pour moi, c'est ça, en fait, ça raconte ça. Et je le fais avec ce que je suis, c'est-à-dire mon corps et mes émotions.
C'est une immense ambition.
Oui. Quand je dis oui, c'est difficile. Il faut travailler pour ça, ça demande de l'humilité aussi, hein, parce que c'est... du coup, ça m'émeut. Il faut des fois faire fi de soi. Quand je dis ça, c'est-à-dire qu'il faut être le plus humble possible, d'y aller à tâtons, et puis d'accepter de changer, d'accepter de ne pas savoir, d'accepter d'aller sans rien, d'être nu, dévêtu.
Est-ce que vous pouvez me donner un exemple d'un spectacle où précisément vous avez tenté cet effort-là qui semble extrêmement complexe et qui demande de fait de l'humilité, de vous dépouiller de vous-même finalement pour vous mettre à la disposition du texte, de l'auteur, peut-être du metteur en scène, du public?
Alors, un exemple. Je vais en citer plusieurs.
Oui, très bien.
Il y a eu le début de là avec Pascal Rambert, mais Pascal, ouais, en fait, il était metteur en scène. Donc forcément, quand l'auteur est le metteur en scène, on ne peut pas faire autrement que d'aller vers lui, vers l'écriture. Bon. Il y a eu aussi, un spectacle à monter Eric Genovese, qui était le prince, le monologue du prince de Pessoa.
Oui.
Mais là, c'était un monologue où c'était un homme qui mourait en direct. Ça durait, je crois, ma partie en tout cas, c'était pas tout le spectacle, mais ma partie durait trois quarts d'heure, et pendant trois quarts d'heure, je mourais en direct. Mais quand on a affaire à ça, forcément, on ne peut pas mettre son ego, sur le tapis. Il faut bien qu'on soit le plus démuni, le plus humble possible devant cette chose immense qui nous attend tous, qui est la mort. Et je ne peux pas raconter la mort en faisant semblant de ne pas y être. Alors, je dis ça, c'est... évidemment, j'avais mes garde-fous, hein, je ne suis pas non plus... Je ne suis pas schizophrène, mais en tout cas, il faut essayer le plus simplement et le plus humblement d'essayer d'y toucher. Et pour essayer que les gens qui viennent voir le spectacle comprennent peut-être quelque chose, ou en tout cas ressentent quelque chose qui peut être angoissant, atroce, ou qui peut être rassurant, je ne sais pas. Après, ça dépend des gens, ça dépend comment les gens perçoivent. Mais en tout cas, moi, en tant qu'interprète et en tant qu'acteur, je ne peux pas faire fi de ça. Je ne peux pas mettre mon petit ego sur la scène, parce que ça, sinon c'est réducteur et ça n'apporte rien.
Mais votre façon de traiter ce texte et d'en parler me laisse à penser que c'est presque organique. C'est pas simplement quelque chose de l'ordre de l'intellect ou de la compréhension, oui, etc. C'est quelque chose, bien sûr, de physique. Chez vous, c'est fondamental. Mais encore une fois, oui, c'est les organes dont il s'agit. C'est un écorché au sens propre.
Oui, c'est vrai. Ça fait mal. Ouais, non, mais ouais. Je dis ça, mais c'est... C'est vrai qu'il y a, toujours un mouvement entre je sais que c'est de la fiction, c'est une fiction, et en même temps je le vis. Et donc forcément, si je le vis, c'est tout mon être qui le vit. Et puis j'arrive, heureusement, à m'en éloigner parce que je sais que c'est une fiction. Et donc ça met en fait une espèce de barrière qui me protège. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de vital.
Oui.
De vital. Alors heureusement, en fait, enfin heureusement, je fais pas de ça tous les ans. Hein, il y a des spectacles qui sont plus légers en fait à jouer. Voilà. Mais c'est vrai que même dans les spectacles légers, il y a toujours, en tout cas pour moi, hein, j'ai toujours l'intérêt de trouver la chose à raconter, la chose à dire de moi en tant qu'humain à d'autres humains.
Revenons à un ou deux metteurs en scène avec qui vous avez travaillé. L'un d'entre eux qui a travaillé pour un spectacle qui se joue en ce moment même, qui est le russe Vassiliev. Dites-nous, parce que Vassiliev, c'est quelqu'un qui est presque légendaire, hein, comme l'était Fomenko, qui l'a précédé ici même, qui, je crois, était ukrainien. Lui, mais enfin, tout ça, c'est la langue russe, en gros, sans vouloir être désobligeant pour les Ukrainiens. Parlez-nous de Vassiliev. Vous avez joué Amphitryon sous sa direction.
Ouais. Alors moi, j'avais pas une grande partition sur ce spectacle-là, donc du coup, j'ai pu regarder beaucoup.
Ouais.
C'était un très beau spectacle. Pas forcément facile. Quand je dis facile, c'est-à-dire avec une lecture immédiate. Je pense que c'était un spectacle d'impression, plutôt qu'un spectacle, j'allais dire presque narratif dans une certaine. Du coup, c'est quelqu'un qui sait. C'est comme la peinture contemporaine. En fait, c'est quelqu'un qui fonctionne par ajout, par tâche. Il ne travaille pas sur le linéaire. Quand je disais, par exemple, sur le descriptif ou ça, il travaille sur de l'impression, enfin comme l'impressionnisme. C'est-à-dire qu'en fait, par collage. Et ce qui était très beau, en fait, c'est que on connaît tous la langue de Molière, puisqu'évidemment c'est notre maison, donc on y est très habitué. Et lui, venant des steppes arides, avait une totale autre lecture et une façon totalement étrange d'aborder ce texte, avec des accents toniques sur la langue, que nous on n'a pas. Et donc du coup ça crée des sonorités et des sens qui étaient presque inconscients, qui venaient troubler en fait notre écoute immédiate et notre écoute un peu normative de la langue. Et forcément, ça crée à la fois chez le spectateur et puis même chez les acteurs une espèce de vibration où c'était à la fois répugnant et à la fois extrêmement attractif. Non, mais
répugnant ?
Oui, parce que quand je dis ça, c'est qu'il y a quelque chose qui ne nous était pas donné immédiatement, dont l'accès n'est pas facile. Et donc forcément, c'est comme si, enfin, moi je vois ça, c'est comme si on avait une je vais dire le mot, mais c'est atroce, pardonnez-moi, une corde. Et que...
Je porte bien du verre.
Bon, c'est bien, ça va. J'ai failli d'ailleurs aujourd'hui, puis je me suis dit, non, vous n'êtes pas non plus poussé trop loin les choses. Et qu'on faisait sonner cette guinde, une fois ça va. Mais dont le son n'est pas reconnaissable et vient en fait perturber notre intime. Et donc il y a quelque chose qui peut être des fois repoussant, je dis répugnant, repoussant, presque dégoûtant, qui peut provoquer des fois du mal-être, du malaise. Mais en fin de compte, c'est cette espèce de mal-être et de malaise qui provoque aussi l'intérêt. C'est ce mystère-là, je crois qu'en fait c'est un metteur en scène qui sait cultiver le mystère. Je crois qu'il travaille beaucoup, enfin moi de ce que j'ai compris dans le spectacle, avec la spiritualité, etc. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Mais c'est quelqu'un qui emmène sur des zones d'ombre ou des zones où l'accès n'est pas, oui, je le dis, enfin encore une fois, n'est pas immédiat. Mais il y a du mystère et il y a de la sensation.
Mais il parle français, Vassiliev ?
Non.
Donc,
enfin, il dit deux, trois mots. En fait.
Voilà, il y a donc un interprète,
ouais.
Un Wynne, qui traduit ce qu'il dit.
C'était pas facile, hein, parce que parce que des fois, c'était drôle, d'ailleurs, parce que Anatoly s'énervait beaucoup. Et là, on comprenait rien. Regardez, oui. Et puis l'interprète essayait de dire ce qu'il venait de dire. Et puis, comme il ne mettait pas le ton, Anatole, il engueulait. Et puis nous, en fait, on essayait, c'est pareil, en fait, après on essayait de réagir à ça, on comprenait, alors on s'énervait un petit peu, donc après, ça calmait les choses, parce que l'interprète avait du mal aussi, alors, bon, c'était très très drôle. Mais du coup, heureusement qu'il était là, parce que le soufflet est tombé, très souvent.
Oui.
Parce que sinon, on allait dans le mur, des fois, et il pouvait être extrêmement violent, quoi.
Oui. C'est pareil, oui. Mais par exemple, sur la gestuelle, puisque Vassiliev est en russe, il a été formé peu ou prou par la tradition stanislavskienne.
Ouais, ouais.
Racontez-nous ça.
Il a beaucoup été cherché du côté des Asiatiques. Beaucoup sur, on a eu, par exemple, on a fait du travail autour du Oshu. On a eu Maître Li. Merci Céline. Qui nous faisait travailler en fait sur un art martial, hein, ouais. Pour arriver à trouver en fait la violence et la douceur qu'il souhaitait, la dangerosité et de ces guerriers là en fait, hein, comment retrouver en fait, comment arriver à montrer et à faire éprouver aux spectateurs la guerre et comment retrouver voilà le mouvement de la guerre. Donc du coup il s'est beaucoup servi de ça, mais évidemment il y avait aussi, comme dans l'exercice de l'art martial, il y avait des arrêts. On ne tape pas vraiment le partenaire. Donc ça pouvait des fois donner effectivement des mouvements extrêmement... qui pouvaient être étranges, parce qu'effectivement, il y avait des impulsions, il y avait des bâtons, par exemple, et il y avait des grands mouvements de bâtons, et on s'arrêtait. Ça pouvait donner effectivement... voilà, c'était presque chorégraphié.
Oui.
Donc il s'est beaucoup attaché à ça, et il s'est beaucoup aussi attaché... pareil aussi à la voix. En fait, il avait développé une façon de gérer la voix où on avait des cours avec Valérie Dréville,
oui.
Qui venait, qui avait elle-même suivi cet enseignement avec lui à Moscou. Et on travaillait sur l'émission vocale. Comment le son peut être percutant? Comment le son peut pénétrer le corps? Je dis le corps du spectateur, c'est extrêmement intéressant, c'est comment la voix peut déclencher chez l'autre une vibration telle que ça amène à la tragédie.
Mais c'est le théâtre japonais, ça, ce que vous racontez là.
Oui.
C'est le no.
Oui, c'est le no. Sauf que lui, alors, évidemment, je vous dis, il a développé une espèce de méthode avec... des exercices, je ne peux pas vous les faire parce que c'est abominable. En plus, je ne m'en souviens plus, mais c'est beaucoup de sons. C'est beaucoup de sons. Mais des lancers de sons qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent et qui restent centrales. Et comme ça, en fait, c'est comment... Et tout le texte doit être géré par ces trois émissions-là. C'était du travail.
Sûrement.
Mais c'était très intéressant.
Bien sûr, on entrevoit ce que vous dites... On mesure l'étrangeté quand même, hein, du discours et la tentation que ça peut représenter pour vous. Vous savez qu'on est très attaché ici à la pédagogie, à essayer de faire apparaître la réalité de ce métier qui est le vôtre. Et ce que vous nous dites là est extrêmement précieux. Parce qu'on peut très bien admirer Vassiliev en ignorant totalement ses méthodes de travail.
Alors peut-être que c'était une méthode qui était extrêmement particulière à ce spectacle-là.
Peut-être.
Bon, oui. En tout cas, enfin, oui. La voix, je sais qu'il l'avait expérimentée avant, je pense qu'il l'a expérimentée après. Mais en tout cas, les arts martiaux, etc., oui. J'avais pas vu, j'avais vu un spectacle de lui qui était un spectacle de Sophocle, mais il n'y avait pas d'arts martiaux. Alors après, voilà, je sais. Après, je ne connais pas assez son histoire pour pouvoir dire, oui. Si c'était la première fois ou pas, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, voilà, sur le déplacement, sur l'aspérité, ce qui va faire qu'en fait, on va mettre le spectateur dans un état de fascination. Quand je dis fascination, ça peut être, je sais pas pourquoi, on parlait de Quignard là tout à l'heure, mais je repense au bouquin de Quignard où il disait que, en fait, c'est l'idée de Méduse. En fait, on peut mourir en regardant, on est fasciné, à la fois on est amoureux, on a du plaisir et on peut mourir. Mais voilà, en fait, c'est ça, la fascination, c'est d'être pris par quelque chose qui vous emmène ailleurs. on peut appeler ça la spiritualité ou n'importe quoi, enfin il y a plein de choses, mais en tout cas je pense que c'est quelqu'un qui travaille là-dedans, il travaille sur la côté pour emmener ailleurs, pour donner une écoute différente et pour impressionner différemment le spectateur. C'est ce que j'ai retenu moi des répétitions avec lui. Et je me souviens d'un exercice en fait, c'est drôle, je pense à ça, que faisait Pierre. J'ai toujours trouvé cet exercice extrêmement révélateur de ce que pouvait être le théâtre. C'était, il fallait qu'on apprenne une tirade d'une tragédie, c'était Racine. Moi je me souviens, j'avais appris Pyrrhus. Et puis on devait faire un exercice, on était en cercle et on tournait comme ça, et chacun disait des vers de Racine, mais il disait d'une manière raisonnable. On a travaillé sur en fait la raison et la passion. Et puis, à un moment donné, il clapait dans sa main, et puis on devait aller au centre, et on devait être pris de passion. Mais quand on fait ça en groupe, alors ça a l'air totalement dingue, etc., mais quand on fait ça en groupe, et qu'on doit aller au centre, et qu'on doit éprouver la passion, il y a quelque chose d'organique qui se met en place. Il y a quelque chose de... où le corps et la voix s'unissent à tel point pour qu'on soit proche de la monstruosité, de la folie, de l'amour, de la jouissance, etc. Enfin, en tout cas, voilà, on développe des choses telles qui font que tout le corps est mobilisé, toute la voix est mobilisée, tous les organes sont mobilisés. Et on revenait après sur les bords du cercle et on reprenait le discours raisonnable. Et je me suis toujours dit qu'en fait, c'était extrêmement fructueux de travailler comme ça. En tout cas, ça nous touchait, nous. Parce que je sens que j'ai cette part raisonnable et j'ai cette part passionnelle. Ouais. En tant qu'humain, hein, en tant que moi, ouais, moi individu. Les deux doivent cohabiter ensemble et doivent, j'allais dire s'aimer, doivent être, oui, doivent être avec. C'est pas facile parce que, évidemment, enfin, je reviens encore à la société, etc., on nous cadre et on nous empêche de travailler là-dessus, cette part qui est en nous, qui est inconsciente, qui est profonde, qui est animale, qui est dans la pulsion. Mais il y a cette chose-là qui est en nous qu'on ne peut pas oublier, qu'on ne doit pas oublier. Et c'est ce qui peut donner le côté organique, c'est que c'est cette chose-là avec l'intellect ou avec le raisonnable, enfin la raison, qui fait que... on peut être un individu. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... En tout cas, c'est ma vision du théâtre. Voilà, c'est qu'il faut pouvoir dire ces deux choses-là, raconter ces deux choses-là.
Vous avez joué beaucoup, vous avez joué, je ne sais pas, 30 ou 40 ou 50 spectacles, enfin, porte le monde, et vous êtes sollicité. Est-ce qu'il vous manque quelque chose ?
J'ai toujours, en fait... vu ce métier-là comme une succession d'aventures et de surprises. Parce que il n'y a pas de rôle que je désire profondément et intimement jouer. Je me dis ce qui est le plus beau, c'est la rencontre. La rencontre d'un auteur, la rencontre d'un metteur en scène et la rencontre avec des partenaires. Puis bon, la rencontre avec un rôle. Mais ce que j'aime, moi, en fait, dans le théâtre, en tout cas dans la répétition, dans ma pratique, c'est de me laisser surprendre, de découvrir, de ne pas savoir. C'est des fois difficile parce qu'on est on a tous tendance à se raccrocher à ce qu'on sait, parce que c'est rassurant. Mais il faut aller dans les zones où, effectivement, où c'est plus rassurant. Et c'est comme ça qu'on touche, je pense, la vérité. C'est quand on n'est pas sûr.
C'est le mot de la fin, c'est magnifique. Merci Alexandre. Merci.
C'était École d'acteurs. Olivier Barrault, journaliste et écrivain, s'entretenait avec Alexandre Pavlov de la Comédie Française. Réalisation Franck Linin.